Chers frères et sœurs, je voudrais d'abord vous dire ma joie d'être parmi vous et en cette fête marquée par l'engagement de notre jeune sœur. J'ai le souvenir d'avoir déjà apporté la parole dans l'un des cultes de votre église, mais ça se perd dans la nuit des temps. Je ne me rappelle plus quand et ma mémoire n'en est pas très précise, je l'avoue. Je vous porte les salutations de l'église dont je suis membre et qui est une église sœur pour vous de l'association des églises baptistes, l'église dite du tabernacle à Paris. Elle m'a chargé donc de fraterner le message pour vous tous. Je vous invite maintenant à écouter la parole de Dieu. Nous lisons dans l'Écriture sainte, dans la première épître de Jean, au chapitre 3, les versets 14 à 24. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque déteste son frère est homicide. Et vous savez qu'aucun homicide n'a la vie éternelle demeurant en lui. À ceci nous connaissons l'amour, c'est que lui, Jésus-Christ, s'est défait de sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons nous défaire de notre vie pour les frères. Mais si quelqu'un possède les ressources du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Mes enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en œuvre et en vérité. À cela, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance auprès de Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréé de lui. Voici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, comme Dieu en lui. À ceci, nous savons qu'il demeure en nous, par l'Esprit qu'il nous a donné. La semaine qui commence aujourd'hui est riche en commémorations. Le 31 octobre, c'est la date qui a été choisie comme l'emblème rappelant la réformation du XVIe siècle dont nous sommes héritiers. Parce que c'est un 31 octobre que Luther a affiché les fameuses thèses qui ont été la première expression du mouvement qui a chamboulé la chrétienté de l'époque, qui a permis à un grand nombre de revenir aux vérités de la Bible. Et puis c'est la Toussaint. Et joint à la Toussaint, le jour des morts. Et j'ai cherché quel élément pourrait être un élément commun, un élément qui puisse rattacher l'un des événements commémorés à l'autre. Il m'a semblé, c'est le sujet qui s'est imposé à moi, que le thème de l'assurance chrétienne, l'assurance de la foi, pouvait bien faire le joint. L'assurance de la foi a été proclamée par les réformateurs du XVIe siècle, et face aux incertitudes, face à l'angoisse qui caractérisait, au moins pour l'époque, et je crois pendant bien des siècles, la piété catholique courante. Surtout ne pas savoir ce qu'il peut advenir, et chercher à se rassurer de mille façons, mais de mille façons plutôt infructueuses. Voilà ce qui a caractérisé assez longtemps la vie de très nombreuses personnes en chrétienté, Et le concile de Trente, le concile donc convoqué au XVIe siècle, pour lancer ce qu'on a parfois appelé la contre-réforme ou la réforme catholique, a un canon, c'est-à-dire une décision normative qui s'impose, le canon numéro 15 de la 6e session, qui dit que si quelqu'un né de nouveau est justifié, considère qu'il doit se considérer comme du nombre des prédestinés, c'est-à-dire de ceux qui sont assurés du salut, eh bien qu'il soit anathème. Le concile a prononcé l'anathème sur cette affirmation de l'assurance du salut. Le sujet me paraît d'actualité non seulement dans les rapports que nous pouvons avoir avec des amis catholiques, mais aussi parce que dans nos églises évangéliques elles-mêmes, l'assurance n'est pas un sujet si clairement discerné par plusieurs. J'ai eu les témoignages de chrétiens et de vrais chrétiens évangéliques qui n'étaient pas très assurés de leur salut et qui se trouvaient parfois taquinés, voire toi taraudés par l'inquiétude à ce propos. Et l'enseignement n'a peut-être pas été toujours aussi clair qu'il le devrait. Je vous propose de nous tourner tout spécialement vers le passage que nous avons lu de la première épître de Jean. Jean écrit à des chrétiens déstabilisés par la propagande de faux docteurs, c'est-à-dire des docteurs de fausseté, des enseignants de mensonges et de faux prophètes, comme il les appelle, et qu'il appelle aussi des antichrists, car ils singent en le transformant en un poison spirituel le message du Christ. Jean écrit à des chrétiens qui manquaient d'assurance et il réaffirme les vérités fondamentales. Premier point que je crois devoir mettre en valeur, l'assurance est une dimension essentielle de la foi. La foi, selon le Nouveau Testament, la foi selon la Bible, comporte une puissante assurance. Nous avons de l'assurance devant Dieu, dit le texte que nous avons lu il y a un instant. Et ailleurs dans l'Épître, l'apôtre utilise ce même ton triomphal de l'assurance chrétienne, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, dit-il au chapitre 5 un peu plus loin. Et ce n'est pas seulement dans les écrits de l'apôtre Jean où l'on trouve cette note d'assurance, mais aussi dans les autres livres du Nouveau Testament. L'apôtre Paul dit « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'ai la conviction, je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. » C'est une affirmation magnifique d'assurance. Et la réforme a dit ces choses avec aussi beaucoup de détermination. J'ai une citation qui vient du réformateur français, Jean Calvin. Jean Calvin dit dans son grand livre, son maître livre, « L'institution de la religion chrétienne », au livre 3, chapitre 2, « Il n'y a nul fidèle, nul vrai croyant, hein, ça veut dire, sinon celui qui étant appuyé sur l'assurance de son salut, ose insulter sans aucun doute au diable et à la mort. » Alors, insulter n'a pas tout à fait le sens que nous donnerions au terme, mais ose, en quelque sorte, dire à la face du diable et de la mort qu'il est sûr du salut que Dieu lui donne. Alors, on peut distinguer dans la foi deux pôles. Il y a l'objet de la foi, et c'est lui qui compte d'abord. Nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus-Christ. Et il y a le sujet de la foi, c'est-à-dire le sujet du verbe croire, celui qui est croyant. Et on peut considérer l'assurance des deux côtés. Le Dieu qui se réveille dans la Bible est le Dieu qui n'est pas douteux. Le Dieu auquel rend témoignage toute sa création. Le Dieu qui accomplit le tout de notre salut, de telle sorte qu'aucune fissure pour le doute ne peut s'infiltrer. Tout est de lui, par lui. C'est sa grâce, son amour tout puissant et tout sage qui a décidé de notre salut. Et le choix qu'il a fait de nous pour nous faire éprouver sa grâce, pour nous communiquer sa vie, est un choix qui est établi dès la fondation du monde, dit le Nouveau Testament. Voilà qui marque la totale sûreté qu'il y a du côté de l'objet de notre foi. C'est un Dieu qui ne peut pas mentir. Il est ainsi caractérisé dans le Nouveau Testament. Le Dieu qui ne peut pas mentir nous fait cette promesse formelle. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La parole que Méline a rappelée tout à l'heure. Et puis du côté du croyant, la foi est une démarche de certitude. La foi consiste à trouver ce qui est solide et à s'appuyer dessus. Voilà ce que suggèrent les mots dans l'original du texte biblique. Parfois, les gens s'imaginent que la foi, c'est le saut dans le vide, qu'on prend des risques. Mais c'est une fausse apparence. L'image clé dans la Bible, c'est celle du rocher. Et on peut l'évoquer avec deux scénarios, si vous voulez, en connexion avec cette image. C'est le rocher que le pauvre noyé réussit, lui qui est agité par les flots, qui tout à coup réussit à découvrir et auquel il s'agrippe, sur lequel il monte, enfin à l'abri des vagues furieuses, sauvé parce qu'il est sur le rocher. Ou bien on peut aussi utiliser l'image du rocher, c'est ce que nous trouvons dans la Bible, avec l'image de la construction. Ceux qui sont finalement des fous, ils construisent leur maison sur du sable, sans fondation. Et il suffit d'une inondation pour que tout s'écroule. Et celui qui est vraiment sage, c'est celui qui construit sur le rocher de la parole de Dieu, le rocher de la parole que le Christ nous apporte. C'est ça la foi. S'établir et construire sur le rocher. Cela appartient à l'essentiel de la foi chrétienne. Et pourtant, deuxième point, l'assurance fait défaut à de vrais croyants. C'est un fait que je suis obligé d'enregistrer, mais qui est déjà biblique, car il n'y aurait pas les exhortations à l'assurance. Le fait de ne pas l'abandonner, comme on trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, verset 35, si cela n'arrivait pas. Et en fait, cela arrive à d'assez nombreux chrétiens. Et dans le même chapitre de l'institution chrétienne, Calvin le dit aussi, je vous lis la citation. « Quand nous enseignons que la foi doit être certaine et assurée, écrit-il, nous n'imaginons point une certitude qui ne soit touchée de nul doute, ni une telle sécurité qui ne soit assaillie de nulle sollicitude, c'est-à-dire trouble moral. Mais plutôt, au contraire, nous disons que les fidèles ont une bataille perpétuelle à l'encontre de leur propre défiance. Quant à l'objet de la foi, beaucoup connaissent le doute, oui, bien sûr. Nous avons l'affirmation que Dieu est et que Dieu est fidèle, que Dieu tient ses promesses. Mais le problème du mal, nous devons en parler demain en soirée, mais est-ce que ce n'est pas là quelque chose qui remet en cause cette assurance d'un Dieu qui mérite le nom de Dieu? L'esprit critique se mettent assez vite à ronger, on ne le voit pas. Et puis, il y a toute l'influence du milieu extérieur. Nous sommes aussi humainement membres les uns des autres. Il y a des dimensions de notre personnalité qui sont en quelque sorte en prise sur toute la société qui nous environne. Or, elle nous bombarde sans cesse d'un message d'incrédulité. Tout ce que les médias nous suggèrent, enfin tout, à 90% disons, c'est précisément qu'il n'y a pas de Dieu et que ceux qui croient en Dieu, bon, on les regarde avec un peu de commisération. Nous sommes forcément sensibles. Ce n'est pas anormal parce que nous sommes construits comme ça pour être part du corps social. Donc nous subissons cette influence quant à la foi en Dieu. Nous sommes tentés de nous dire, mais finalement, est-ce que ce n'est pas l'opium du peuple? Est-ce que ce n'est pas une vaine consolation que les humains se sont construites, un fantasme qu'ils ont préservé de ce qui n'était que puéril? Voilà comment l'objet de la foi est sujet aux attaques du doute. Et puis quant à la démarche même de foi du côté du sujet croyant, chacun de nous, il nous est facile avec l'esprit critique qui nous a été donné, qui est une part de notre création, qui est un honneur pour la personne humaine. Mais est-ce que nous ne sommes pas tentés avec l'esprit critique de nous dire, oui, mais est-ce que finalement mon engagement, mon expérience chrétienne, est-ce que ce n'est pas simplement du conditionnement familial? Est-ce que ce n'est pas le produit des déterminismes de mon milieu ou des circonstances que j'ai connues? Comment être sûr, est-ce que ce n'est pas un enthousiasme passager qui m'a saisi, une émotion qui m'a un moment submergé, mais finalement ce n'est que ça. Le doute, quant à la foi, dans son pôle subjectif, nous le connaissons aussi. De vrais chrétiens le connaissent aussi et certains en sont tourmentés. Et il n'est pas si mauvais que l'esprit critique s'exerce. Parce qu'il y a une foi inauthentique. Nous n'en parlons pas beaucoup dans nos églises, mais c'est un thème important du Nouveau Testament. Vous vous rappelez la parabole que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a racontée, la parabole dite du semeur, mais qui concerne surtout les sols différents sur lesquels la semence tombe. Il y a quatre sols, et il y a deux de ces sols pour lesquels la semence a l'air de très bien prendre. C'est même peut-être plus manifeste, plus éclatant que lorsque la semence tombe dans la bonne terre. Quand elle est tombée sur le sol rocailleux où il y a juste une toute petite épaisseur de terre arable, et ça pousse tout de suite, très vite. Et puis, il y a ceux qui sont caractérisés comme un sol où il y a des mauvaises herbes, des chardons. Là aussi, ça pousse très vite. Et Jésus-Christ lui-même nous avertit, il ne croit que pour un temps. C'est l'expression qu'il emploie. Il ne croit que pour un temps. Ce n'est pas la foi authentique qui correspond à l'image de la bonne terre qui a été bien travaillée, où la semence tombe en profondeur, et où alors là, elle s'établit, jette ses racines et porte du fruit. Mais il existe une foi inauthentique. Et l'assurance du salut, ça les réformateurs l'ont fortement souligné, ne doit pas se confondre avec la sécurité illusoire de la satisfaction de soi. Ben oui, je suis un bon chrétien, confortablement. Non, ça... Cette sécurité, Luther l'opposait à la certitude. Et le terme qu'employait plutôt Calvin, je fais référence aux deux grands réformateurs, puisque l'on parle de la réformation cette semaine, Calvin l'appelait la nonchalance. Oui. Une nonchalance, oui, on croit, mais finalement ça n'engage pas, ça n'a rien de profond. Alors comment regagner l'assurance quand on est un chrétien qui a mis sa foi en Jésus-Christ. né de nouveau, mais qu'on est assiégé par le doute quant à l'objet de la foi et quant à la démarche même qu'on a faite. Comment ? Il ne faut surtout pas prendre la fausse piste de chercher à se rassurer en dehors de la foi, en trouvant un point d'appui qui serait différent. Alors là, je suis soulagé, j'ai un point d'appui. C'est une fausse piste. Ce n'est même pas une impasse, parce que c'est une route qui conduit dans l'abîme, dans la perdition. Non, non, c'est impossible d'avoir l'assurance de la foi dont parle le Nouveau Testament si on essaye de sortir de la foi. Alors certains essayent de sortir de la foi par le raisonnement, en disant, voilà, je vais, en usant de ma raison, établir la vérité de ce que je crois, et alors là, je n'aurai plus, en quelque sorte, à me demander si j'ai vraiment la foi, j'aurai démontré la chose pour ma raison. Oui, mais la raison, comme disaient Montaigne et Pascal, sur ce point, avaient suivi la leçon de Montaigne, elle est ployable en tous sens. Au lieu d'être une règle bien rigide, bien stricte, qui indique la voie droite, ouh là là, ce qu'on peut la tordre facilement, la raison, quand on s'en sert. J'aime jouer un petit peu sur les mots, mais je dis la raison, que de couleuvres on lui a fait avaler. Et j'ajoute, et même pas seulement des couleuvres, des vipères. La raison, elle part toujours de certains présupposés, d'une certaine forme de foi. Elle ne peut pas se prouver elle-même. Et les raisons pour essayer de prouver l'existence de Dieu indépendamment de la démarche de foi, je crois qu'elles échouent finalement toutes. Et essayer de se rassurer du point de vue subjectif, du point de vue l'authenticité de la foi, de nouveau, on peut toujours remettre en doute ce sur quoi on croit s'appuyer. Ah, j'ai ressenti une telle joie qui m'inondait. Oui, mais ça aussi, on trouve ça dans d'autres religions. Il y a des phénomènes psychologiques qui peuvent l'expliquer. Je me rappelle avoir conversé une fois avec un ami qui disait que depuis qu'il parlait en langue, il n'avait plus aucun doute, Oui, mais il parlait en langue, on le trouve dans des sectes, on le trouve dans le vaudou, ce ne sont pas des appuis qui permettent d'asseoir l'assurance sur quelque chose qui serait en quelque sorte plus solide qu'elle. L'assurance de la foi est de la foi, dans la foi. Et je dirais, c'est normal si Dieu est Dieu. Si Dieu est Dieu, c'est lui qui nous donne de croire en lui. C'est lui qui nous saisit, c'est lui. Et donc, si nous essayons, en quelque sorte, d'échapper à ce rapport direct avec lui pour appuyer la foi sur quelque chose d'autre, en fait, nous sommes en train déjà d'enlever au droit de Dieu sur nous, d'enlever à la gloire de ce Dieu qui est le Dieu vivant et qui se donne lui-même à connaître par ses créatures qu'il choisit. Donc, pas d'assurance en dehors de la foi. Mais notre foi est faible, même ceux qui sont les plus avancés. Notre foi est mêlée à ce qui est le contraire de la foi, mais voilà, qui est parfois aussi, qui est souvent aussi dans notre cœur, le doute. Et cela va avec la fragilité humaine qui est notre lot. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes poussière. Ce n'est pas très solide, la poussière. Dieu sait notre faiblesse. Et il en tient compte dans sa bonté, dans sa miséricorde. Non seulement il nous donne la foi, mais il nous donne des confirmations de la foi, alors qui ne valent pas en dehors de la foi, mais qui, lorsque nous sommes dans la foi, nous rassurent, nous donnent cette paix devant Dieu que le texte de la première épître de Jean évoque. Nous apaisons notre cœur devant lui grâce aux confirmations qu'il donne. Dans la foi, nous voyons en quelque sorte la vérité de Dieu se refléter dans tout l'univers et dans toute l'histoire qu'il conduit. Et il nous est donné de voir déjà, d'entrevoir en tout cas, cette harmonie, cette symphonie, et cela nous aide dans la foi et nous permet d'avancer avec plus d'assurance dans la foi. Alors quant à l'objet de la foi, il y a le témoignage de toutes les œuvres de Dieu, il y a la faiblesse de toutes les critiques qui sont lancées. Alors bien sûr, je ne vais pas me lancer dans le travail maintenant, mais on peut faire la critique de la critique. On peut dénoncer le vide, l'absence de soutien réel au grand discours qui méprise la foi. On peut discerner le nihilisme immonde chez les penseurs les plus célébrés de notre temps, dont un pourcentage d'ailleurs très élevé s'est suicidé, s'est drogué. Prenez les gloires de notre société dans son athéisme. C'est significatif. Et puis, il y a les signes que Dieu donne. Il y a les miracles qu'il fait, les exaucements qu'il apporte. Et il y a les prophéties accomplies. Il y a le témoignage de la résurrection du Christ, avec des témoignages qui, historiquement, il y a eu des historiens pour essayer de démolir ces témoignages et qui se sont convertis, qui sont venus à la foi, parce que c'est du solide, ces témoignages d'hommes. Si on adopte une procédure historienne rigoureuse, droite, sans a priori contraire. Et donc il y a tous ces éléments qui viennent nous aider du côté de l'objet de notre foi. Et puis quant aux aspects plus subjectifs de notre foi, il y a, me semble-t-il, trois encouragements, trois confirmations précieuses que le Seigneur nous donne. Il y a d'abord ce que les réformateurs ont appelé le témoignage intérieur du Saint-Esprit. C'est ce que dit le passage que nous avons lu tout à la fin. Nous savons que Dieu demeure en nous, nous demeurons en Dieu, parce qu'il nous a donné de son esprit. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu, il n'y a pas de christianisme. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Et si quelqu'un a l'esprit de Christ, l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est une parole de l'apôtre Paul au chapitre 8 de l'épître aux Romains. Il y a cette présence intime qui, au moins par certains moments, nous est perceptible au fond de nous-mêmes, tout au fond. Et cela, c'est ce qui nous donne de l'assurance. Et cela, ça fait partie du même point que j'essaie d'expliquer. Cela se marque par de nouveaux goûts et dégoûts. Là, je pense que c'est un des traits particulièrement significatifs de l'expérience chrétienne. Des choses qui nous plaisaient, qui nous attiraient, c'est fini. Ça nous dégoûte plutôt. Je crois que c'est l'œuvre de l'esprit, c'est la marque que Dieu est en nous. Et puis des goûts nouveaux, le goût de la Bible, de la parole de Dieu. J'ai un ami qui est membre très ancien de l'église du tabernacle, dans mon église, qui me disait une fois, c'est pas seulement de lire la Bible, mais de la dévorer, de la manger. C'était magnifique, ce témoignage qu'il rendait. Alors, c'est pas à tous les moments, je suis d'accord, il y a des moments où nous sommes fatigués, il y a des moments, mais c'est une réalité dans la vie chrétienne, que la joie de trouver dans la Bible, vraiment, une parole qui donne la vie. Il y a donc ce témoignage intérieur du Saint-Esprit. Il y a également
tous les frères et sœurs. Cela, alors, est très remarquable. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et les sœurs. C'est encore dans notre texte. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce qu'il y a une émotion nouvelle que nous connaissons. Parce que effectivement, nous sommes heureux d'être ensemble. Alors c'est vrai que de là aussi, il y a des passages à vide parfois, mais c'est une réalité nouvelle. Et je vous avoue que personnellement, une des choses qui me conforte le plus, qui me fait vibrer et confirme ma foi, j'en ai besoin, c'est d'entendre les témoignages des frères et sœurs. Par exemple, quand ils s'engagent dans le baptême, mais à d'autres reprises aussi. Ah oui, là quelque chose vibre, et oui. Oui. Il y a une réalité qui est dans ma vie et que je reconnais dans la vie du frère ou de la sœur qui parle. La communion fraternelle est extrêmement précieuse pour nous assurer en Christ. Et puis il y a cette parole, Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu connaît tout et c'est ce que nous... Tout ce qu'il y a en nous et toutes les contradictions au fond de nous-mêmes. Mais il est plus grand que notre cœur. C'est lui qui nous a pris en charge. C'est lui qui nous a saisis dans son amour et sa bonté. Et donc, nous pouvons, en quelque sorte, nous décharger du fardeau même des tentations du doute. Nous pouvons nous en remettre à lui. Il y a sans doute un écho dans cette parole de la première épître de Jean, ce qu'on a au chapitre 21 de l'Évangile, selon Jean. Lorsque Pierre, qui a renié Jésus, lorsque Pierre est réintégré merveilleusement par la grâce de Dieu, avec une pédagogie très précise du Seigneur Jésus, mais le Seigneur Jésus lui ouvre les bras, en quelque sorte, avec son oui, sois le pasteur de mes brebis. Pierre dit, Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. Tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. C'est ce que nous disons aussi au Seigneur quand le doute nous assaille. Dieu est plus grand que notre cœur. Il sait qu'au fond, il y a cet amour qu'il nous a donné lui-même, qu'il a suscité lui-même. Mais ça... Sa grandeur, qui est la grandeur de son amour, nous enveloppe à ce moment-là, nous protège de toutes les attaques, les flèches du malin. La connaissance de la grandeur de notre Seigneur, qui est plus grand que notre cœur, est là pour nous assurer pleinement en lui. Alors nous sommes ensemble dans la joie de la communion fraternelle, sachant... tout ce qu'il a fait dans notre vie, tous les exaucements qu'il nous a donnés dans le passé, tous les signes qu'il a pu nous accorder, nous sommes ensemble pour nous exhorter les uns les autres à regarder à lui, à la grandeur de sa grâce.